Je sais que vous aimez la poésie. Et ça tombe bien, j'en suis moi-même très féru.
23h.
23h.
Minuit.
Minuit.
On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion.
La poésie dans la nuit.
Avec Sylvain.
J'ai la poésie dans la viande. La poésie, je couche avec.
Ma bohème.
Ma bohème.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le sixième volet de l'émission Ma Bohème, votre rendez-vous graffitieste dédié à la poésie. Et comme chaque troisième dimanche du mois, de 23h à minuit, nous explorons ensemble ce que veut dire la poésie, histoire de s'en imprégner plus facilement. Aujourd'hui, continuons notre quête tout en nous intéressant à la poésie des contes et légendes. Nous allons parler de revenants, de superstitions. Le mois dernier, nous avions déjà évoqué un aspect inhérent au romantisme, la solitude. Je vous propose de continuer sur notre lancée avec un autre aspect du romantisme, le paranormal. C'est ce dont l'existence est contestée et qui ne pourrait être expliqué que par l'intervention de forces inconnues. Nous allons aussi parler d'ésotérisme, c'est-à-dire les connaissances occultes, les rites réservés aux initiés qui touchent le monde de l'entre-deux. La poésie, c'est aussi peut-être ça, c'est le monde de l'entre-deux. On verra cela par le prisme de la couleur et du noir et blanc. Allez, je vous libère pêle-mêle quelques fragments de ce que nous allons aborder ce soir. Il sera question de fantômes vivants, d'expériences hors corps, de Barnum, de jazz décalé, de panne de réveil, de dessins un peu sales, de traits charbonneux, de poèmes poids-plumes, de gitans qui emportent les disparus, de murs qui gardent une mémoire, de roses et de roses pourpres. Et puis, à l'occasion du BD Fest qui a été organisé par la librairie lyonnaise le 85000, les 19 et 20 mai dernier, j'ai eu la chance de rencontrer la talentueuse dessinatrice de BD, Valérie Vernet, sur son rapport à la poésie et ce qu'elle pense des fantômes. On écoutera ça dans quelques minutes. Mais pour l'heure, juste avant de s'intéresser au poème de fantômes, Les êtres chers de Margaret Atwood, notre poème du mois pour tourner la première page de l'émission, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance avec le désormais classique morceau de rock prog qui ouvre l'émission. Je voudrais partager avec vous un titre inquiétant que j'adore de Steven Wilson. Ça s'appelle Harmony Korine, c'est le nom d'un réalisateur américain. On peut trouver intéressante sa technique d'écriture, le courant de conscience qui consiste à transmettre le point de vue cognitif de l'auteur en donnant l'équivalent écrit de son processus de pensée. Ça se lit sans ponctuation, c'est cousu de phrases surréalistes au premier abord. Mais faut pas chercher un sens à tout prix, il faut explorer les sentiments derrière les paroles. Harmony Korine de Steven Wilson. Le fantomatique Harmony Korine de Steven Wilson. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai dans le studio Thierry qui est présent. Thierry, comment ça va ?
Salut Sylvain, salut tout le monde, tout va très bien.
Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit morceau de Steven Wilson ?
J'adore le thème que tu nous as présenté au début, c'est-à-dire tout ce qui touche au paranormal, tout ça, j'adore. dans la poésie. C'est génial.
C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce qu'on va entendre ? Je vais te faire écouter un poème que j'ai sélectionné, et je fais souvent ça, le poème du mois, et tu vas me dire ce que tu en penses.
Allons-y.
Je vais d'abord expliquer, et puis après on en parle ensemble. Les êtres chers, mais où vont-ils ? Ils ne peuvent être nulle part. Avant, les gitans les emportaient, ou bien alors les petites gens, qui n'étaient pas petits, bien que séduisants. Ils ont été attirés sur une colline, ces êtres chers. Il y avait de l'or et de la danse. Ils auraient dû rentrer à 9 heures. Vous avez téléphoné. Les horloges sonnaient comme de la glace, comme du métal, sans cœur. Une semaine, 2 semaines, rien. Cette année, on passait, non, une vingtaine, non, une centaine. Ajoutez-en encore. Quand ils ont finalement réapparu, sans une ride de plus, errant en guenille sur la route, pieds nus, les cheveux embroussaillés, ceux qui les avaient attendus si longtemps étaient morts depuis des décennies. C'était le genre d'histoire que nous avions l'habitude de raconter. D'une certaine manière, elles étaient réconfortantes, parce qu'elles disaient « tout le monde doit bien être quelque part ». Mais ceux qui nous sont chers, où sont-ils ? Où ? Où ? Après un certain temps, tu parles comme un oiseau, tu t'arrêtes, mais le chagrin appelle encore. Il te quitte et s'envole, sur les champs froids de la nuit, cherchant, et cherchant encore sur les rivières, sur l'air dénudé. The dear ones, but where are they? They can't be nowhere. It used to be that gypsies took them, or else the little people, who are not little, though enticing. They were lured into a hill, those dear ones. There was gold and dancing. They should have come home by 9. You phoned. The clock chimed like eyes, like metal, heartless. A week, 2 weeks, nothing. 7 years passed. No, a score. No, 100. Make it more. When they finally reappeared, not a day older, wandering down the road in tatters, in bare feet, their hair all ragged. Those who had waited for them for long were decades dead. These were the kinds of stories we used to tell. They were comforting in a way, because they said everyone has to be somewhere. But the dear ones, where are they? Where? Where? After a while, you sound like a bird. You stop, but the sorrow goes on calling. It leaves you and flies out, over the cold night fields, searching and searching over the rivers, over the emptied air. Voilà, c'était ma sélection du mois. C'est un poème que j'ai sélectionné dans un recueil que je me suis procuré récemment, là, qui s'appelle Poème tardif. Et c'est un recueil qui a été fait par Margaret Atwood. Je ne sais pas si tu connais Margaret Atwood, ça te dit quelque chose ?
Alors, honnêtement, je vais pas me vanter, hein, je n'ai pas un grand niveau de littérature et de poésie, alors je ne connais pas. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que je suis bluffé par ta prononciation en anglais parce que j'ai tout compris.
Ah bah super, alors, ça me fait plaisir. Donc en gros, c'est celle qui a écrit La Servante Écarlate.
D'accord.
Tu sais, c'est une série Netflix qui a un gros succès en ce moment.
Oui, tout à fait. Que j'ai pas vu parce que j'ai pas Netflix.
On connaît plus ou moins l'histoire.
Oui,
c'est une dystopie. C'est joué par une super actrice qui s'appelle Elizabeth Moss. Et donc, il y a 2 ans, Margaret Atwood, qui est une vieille grand-mère canadienne qui a eu un succès planétaire avec ses livres, eh bien, elle décide, parce qu'elle a retrouvé des poèmes dans le fond de son tiroir, de les publier. Et puis, elle en a fait un recueil qui s'appelle « Poème tardif ». Alors, ça parle beaucoup de mort, mais ça parle pas que de ça. Ça parle de la vie, du renouveau, ça parle du deuil, ça parle du temps qui passe. Et puis, elle adore les oiseaux, donc ça parle beaucoup des oiseaux. Et donc, elle est assez rigolote parce qu'elle dit « Oui, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des poèmes. Quand j'avais 16 ans, je faisais des poèmes sur, par exemple, l'hiver, les têtes coupées, la révolution hongroise de 1956, les pivoines, des sujets normaux, quoi. » J'aime bien les vibrations poétiques qui existent entre les deux langues. C'est pour ça que je l'ai lu d'abord en français.
D'accord.
Et ensuite en anglais, puisque en fait, c'est un recueil bilingue. Alors, pour revenir justement sur ce texte, Margaret Atwood, elle a un message à haute portée poétique. C'est ça que je recherche dans les textes que je choisis. Je pense que dès lors qu'un texte évoque quelque chose de métaphysique comme « qu'est-ce que l'amour ?» ou bien « que deviennent les âmes des morts ?» eh bien, on peut y voir de la poésie. On peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça nous emporte.
Tout à fait.
A contrario, quand t'as un poème sur, je sais pas moi, les gilets jaunes ou bien Macron ou le Covid, franchement, pour moi, il n'y a aucune portée poétique. Ça a beau rimer et tout, même si c'est bien...
C'est pas poétique.
C'est pas poétique. Donc, le sujet compte. Quelques remarques sur le poème quand même. Le pays où vont les morts est une colline où il y a de l'or et de la danse. Alors là, elle fait une juxtaposition, c'est-à-dire qu'elle place deux idées côte à côte pour mettre en évidence des images décalées qui définissent l'au-delà. C'est un aspect intéressant. Le passage du temps aussi, après le départ de nos disparus, il se fait tarder. Au fur et à mesure, elle dit une semaine, deux semaines, rien. Cette année ont passé, non, une vingtaine, non, une centaine, ajoutez-en encore. Et là encore, elle fait une juxtaposition. Ensuite, les horloges sonnaient comme de la glace, comme du métal, sans cœur. C'est beau ça?
Ah, c'est très beau, oui.
C'est un hippalage. C'est une figure de style qui donne à un mot une association différente de celle qu'on aurait attendue. Parce qu'une horloge sans cœur, comme s'il existait des horloges avec un cœur. Mais on comprend un petit peu ce qu'elle essaie de dire.
Oui, tout à fait.
C'est que le temps, finalement, il ne fait pas de sentiments. Il s'abat sur ceux qui restent et ça fait très mal. Et il y a un autre hippalage en plus, à la toute fin du poème, l'air dénudé. Dénudé, en principe, ça s'applique à un corps humain.
Oui.
Et là, le fait de dire que l'air est dénudé, ça apporte un côté décalé. Et je trouve que ça crée un effet poétique.
Oui, ça crée un effet poétique. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est les odeurs, en fait, hein, quand on parle de l'air dénudé. C'est-à-dire un air sans odeur, un air qui vit peu ou qui ne vit pas.
Intéressant ça, j'avais pas tout de suite pensé à l'odeur. J'avais plutôt pensé à un air stagnant, quelque chose de...
Sans vent.
Ouais, enfin, qui ne vit pas, là je te rejoins là-dessus. Ouais. En tout cas, c'est du ressort du traducteur, hein, parce que dans le poème de départ, c'est pas du tout...
C'est une question d'ailleurs que je voulais poser,
ouais.
Parce que alors ça, je suis néophyte là-dessus. Je me suis tout le temps posé la question justement sur les poètes, mm-hmm. concernant les poètes étrangers, la façon dont ça pouvait être traduit. Et quel pouvoir a l'auteur original sur la traduction qui va en résulter et sur le sens qui est donné, parce que...
Eh bien, on a un petit aperçu, généralement, en début de recueil, quand le traducteur lui-même ou elle-même donne son point de vue et dit que, par exemple, la personne a essayé de traduire plutôt les sons, les assonances, les bruits, plutôt que le sens. Ce qui fait que, par exemple, l'air dénudé, c'est « the emptied air ».
Ouais.
C'est l'air vide. Vidé.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais c'est pas traduit mot à mot par vidé. Il y a une image poétique, un hippalage justement qui est fait parce que c'est plus élevé comme type de langue.
Ouais. Ça appelle plus l'imaginaire.
Tout à fait. C'est plus une image. Et autre image justement. L'avant-dernière strophe dit tu parles comme un oiseau, tu t'arrêtes, mais le chagrin appelle encore. Il te quitte et s'envole. La peine, ici, elle est comparée à un oiseau. Alors ça peut nous parler, ça, surtout si on a vécu nous-mêmes un deuil. L'envol, finalement, c'est vécu comme une métaphore de la disparition, et c'est doux comme image, ça.
Complètement. On monte, on dit tout le temps qu'on vole, on monte.
C'est ça.
Enfin, il n'y a que ceux qui ont fait des mauvaises actions qui descendent, quoi, il paraît.
Et encore, là, on est encore dans une métaphore, une image,
tout
une représentation,
fait.
Et finalement, si c'était totalement autre chose.
Quand t'es vilain, tu t'enfonces, quand t'es gentil, tu t'élèves.
C'est ce qu'on dit. À présent, un peu de jazz contemporain avec le trio anglais Go Go Penguin. Quel nom bizarre aussi, ça. Il était venu le 15 décembre dernier, donner un concert au KM. C'était la deuxième fois que je les voyais en concert ici, à La Roche. Ils étaient déjà venus en 2016 au festival Air Pop. Je sais pas si tu les avais vus.
Je les ai pas vus, je savais qu'ils passaient au KM. Mais j'étais pas disponible ce soir-là.
Ok, alors je vais vous passer le premier titre de leur troisième album, qui s'intitule Man-Made Object, l'objet fait par l'homme. Et juste après Go Go Penguin, j'enchaînerai avec un autre morceau de jazz, mais cette fois-ci du jazz français. Et ce sera donc Irish Ghost. On reste dans le monde des fantômes de Thierry Maillard. Tout de suite, All Rest. C'est le nom du titre. Pour se plonger dans une atmosphère nocturne éthérée, c'est assez enlevé. Il y a un intéressant décalage entre piano et batterie. All Rest de Go Go Penguin dans Ma Bohème sur Graffiti.
Thank you.
Prince, Mary, don't you weep. Marie, ne pleure pas. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thierry ?
Ben, grosse surprise aussi, tu vois, parce que tu viens de me passer un titre que je ne connaissais pas.
Et oui, c'est super. Il n'est pas connu du tout. En fait, il fait partie d'un album qui est sorti en 1983, qui s'appelait Piano Microphone 1983. Et il l'avait enregistré dans son studio dans le Minnesota, à Chanhassen. Et il avait juste enregistré piano-voix.
Piano-voix, ouais.
C'est très profond. Alors, il a fait un remix dans les années 2015, suite aux émeutes de Baltimore.
Ah, oui, d'accord.
À l'époque, il y avait eu un jeune noir, Freddie Gray, qui avait été tué lors de son arrestation, tu vois.
Ça me rappelle bizarrement quelque chose, mais depuis.
Donc, il y avait eu un énorme événement suite à ça. Il y avait eu des émeutes, évidemment. Et puis, un rassemblement qui s'appelait le Rally for Peace. Mm-hmm. Et le chanteur avait pris part à ce rally. Il avait fait même un discours, parce qu'il avait été touché par ce qui s'était passé. Et il avait passé ce morceau. Et puis, moi, ce morceau, je l'ai découvert il y a quelques années seulement en regardant un film de Spike Lee qui s'appelle Black Klansman. Un super film. Et il y a une BO dans ce film qui est absolument gigantesque. Et donc, il y a ce titre-là que j'ai adoré. J'ai eu envie de le mettre dans l'émission. Alors, pourquoi ? Bah, parce que le titre invoque évidemment la violence policière, mais il invoque aussi la résilience et le deuil.
Jusqu'à minuit,
ma bohème.
On peut tout faire, vous savez. On peut tout faire. Ce qui est important, c'est de ne pas tricher et de continuer à être amoureux.
La poésie dans la nuit.
De ne pas cesser de croire.
Graffiti.
Lors de la précédente émission, je vous avais annoncé que j'allais vous livrer l'interview d'un auteur dans le prochain numéro. Et c'est en l'occurrence une auteure que je suis allé récemment interviewer. C'était lors du festival de BD de La Roche-sur-Yon qui a eu lieu en mai dernier. Alors, pour vous permettre de visualiser un petit peu la scène, il y avait sur la place Jacques Chirac des Barnums installés avec une bonne vingtaine de BDistes assis derrière des longs étals qui les entouraient et sur lesquels s'empilaient leurs dernières créations. Les amateurs attendaient sagement en file indienne que les maîtres dessinateurs terminent les dédicaces dessinées des gens de devant. J'avais très envie d'interviewer l'un d'entre eux, mais quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire le tour des artistes en feuilletant leurs albums. Et c'est tout naturellement que mon choix s'est porté sur l'autrice Valérie Vernet. C'est la chaleur de son coup de crayon, de ses couleurs, de ses thèmes, avec ses jeunes héroïnes intrépides et indépendantes, très poreux de ce qu'on retrouve dans les films d'animation des studios Ghibli, qui ont fait la différence. Je vous laisse écouter ma rencontre avec elle.
Je viens de lire deux de tes BD, Mémoire de l'eau et Rose. Dans cet ordre-là, d'ailleurs.
Ok. Ah, je vois qu'il y a plein de petites annotations.
Et je t'ai trouvé très poétique dans ton dessin.
Je suis tournée vers la narration, forcément. Je fais de la BD. Mais je cherche plus des ambiances, des lumières et des sentiments.
Un exemple de poésie que je trouve dans ton dessin, c'est la transparence que tu arrives à produire lorsque les personnages vont dans l'eau.
Oui.
Tes histoires sont très empreintes des bords de mer.
Bizarrement, alors, c'est anecdote. J'ai peur de l'eau, donc ça m'attire. Je suis assez contemplative de l'océan parce que d'une, j'habite dans les Landes et je passe beaucoup de temps à observer les autres aller se baigner ou aller faire du surf ou du kitesurf.
Et toi, tu n'y vas pas ?
Mais moi, j'y vais pas. Enfin, juste les pieds.
Petite question technique, comment est-ce que tu arrives à faire cette transparence ? Quand on voit, par exemple, les pieds dans l'eau ?
Ah, ok. Alors, je travaille en numérique. Je me suis créé une palette d'outils Photoshop. Et les outils que j'utilise, je me les suis créés pour me rapprocher le plus possible d'un effet. À la base, je fais de l'aquarelle et de la gouache. Et je voulais obtenir cette sensibilité pour que ce soit le plus chaleureux possible. En termes de technique sur les transparences, c'est des systèmes de calque avec Photoshop.
On retrouve ça un petit peu dans le voyage de Chihiro quand elle prend le train dans l'eau.
Ah oui, bah complètement. Ouais. Bah oui, bah, je suis fan. Hein.
Pour ceux qui connaissent pas la mémoire de l'eau, on y retrouve des ambiances de Ponyo sur la falaise, de Totoro aussi, puisque ouais. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas de père.
Oui.
Et qui arrive avec un seul parent.
Avec sa maman.
Dans la vieille maison familiale.
Elle va partir à la découverte des plages et elle va rencontrer un gardien de phare qui s'appelle Virgile. C'est une légende. Il y a une partie vraie et après il y a une partie imaginée. Et le titre, on a essayé de se rapprocher de cette thèse de la mémoire de l'eau.
Ça veut dire quoi, la mémoire de l'eau ?
Bah, ça veut dire qu'elle garde une empreinte de son.
Je vois, page 92 de l'album La mémoire de l'eau, on voit une case de scène de pêche avec un chalutier. Ça m'a beaucoup parlé parce que moi, personnellement, dans mon histoire familiale, j'ai un arrière-grand-père qui était marin-pêcheur à Douarnenez, dans le Finistère. J'ai réussi à totalement m'identifier à cette histoire.
Super.
et ça m'a fait chaud au cœur. Il y a une légende familiale, il y a une ambiance, une atmosphère assez mystérieuse. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à faire ce type de brouillard, là encore, sachant qu'on dirait que c'est de la peinture?
Oui, par rapport à une BD classique où on laisse toujours vraiment partout apparaître le trait, l'ancrage, moi j'ai décidé de l'atténuer toujours avec mon système de calque. J'essaye à chaque fois de marier mon trait avec ma couleur. Je veux pas que les deux fassent complètement séparés. Je suis moins dans la BD classique parce qu'en fait, je viens de l'illustration et j'ai ce côté-là entre deux, entre la BD qui est de la narration, qui raconte une histoire, et l'illustration. Et l'illustration, c'est plus un système de une image, c'est le texte à côté qui raconte quelque chose.
C'est pas ce que tu fais là, tu n'es pas du tout dans l'illustration, non. Bien que tu t'es occupé du dessin et de la couleur.
Ouais, voilà, mais je garde ce petit truc d'illustratrice. Je n'arrive pas à faire de la BD classique comme on pourrait regarder un Tintin, ça n'a rien à voir.
Quand on regarde le grain de tes dessins, je regarde notamment le bateau, les cheveux des personnages, il y a une texture qui donne une certaine authenticité, un certain mystère. On sent que c'est de la légende.
Ouais, mais en fait, je voulais ça. J'ai cherché à avoir un trait charbonneux. Ça, par contre, je le fais pas sur l'ordi. Ça, c'est un ancrage au crayon papier. Je me suis pris un canson qui est un maximum de grains pour que le carbone vive.
Pour que les auditeurs puissent visualiser un petit peu, quand on a par exemple le ciré d'un marin pêcheur, il est usé un petit peu comme la coque d'un vieux bateau de pêche qui serait à sec sur le port. Il y a une usure du temps qui rend la BD authentique.
Oui, bah, j'aime bien justement pas avoir un truc lisse, très froid.
Il faut que ce soit un peu sale.
Ouais, enfin sale.
Non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas. Justement, ton contour de tes cases, il est fait au crayon noir de couleur, ouais. Ce qui donne là encore un côté artisanal à ton travail et non pas un côté trop lisse, trop Photoshop.
Aussi, là, le contour de case, je fais pas ça à la règle. Enfin, je fais ça à main levée. Bon, j'essaie que ce soit droit. C'est ça qui donne le petit truc vivant.
Tu parlais de légende. Il y a des points communs entre ta BD La mémoire de l'eau et puis Rose. C'est évidemment l'histoire familiale.
Oui, j'aime bien l'étoffe des personnages féminins et qui ont un passif. Voilà, j'aime bien travailler sur ça.
Et puis il y a cette notion de croire ou pas aux légendes, aux fantômes, aux histoires de sorcières.
Ouais, je suis toujours entre deux. C'est ni vrai ni faux, je balance entre les deux.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Ça fait 20 ans que tu es BDiste.
Oui, si on peut dire, ouais. D'illustratrice, autrice.
C'est péjoratif, BDiste?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, absolument pas. J'ai fait une école d'illustration, j'ai toujours dessiné. Ça a été mon mode d'expression, ça ne m'a jamais quitté. C'est une école d'illustration, Émile Cole, à Lyon. Et je pensais faire de l'illustration jeunesse. Finalement, je n'ai pas du tout fait ça. J'ai directement commencé en BD. Je me suis un peu formée sur le tas. Je lisais des BD. J'en étais encore à Bécassine, Tintin, Boule et Bill, Gaston Lagaffe.
Je pense qu'on a tous été bercés à ça. C'est une formation intellectuelle.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai découvert sur le tas. Et même maintenant, j'en lis plus qu'avant. Je me dirige vers d'autres choses. Mais bon, tout ça pour dire que je ne pensais pas arriver à faire de la BD un jour. Je pensais que je pouvais faire que de l'illustration jeunesse. Et au final, en illustration jeunesse. J'ai surtout travaillé pour des magazines jeunesse, pas du tout pour des albums jeunesse.
Tes histoires sont souvent inspirées de scènes de bord de mer. On te sent attiré par la mer parce qu'il y a des ambiances, il y a une zone de mystère. Et la BD La mémoire de l'eau se passe en Bretagne, à côté de Morlaix.
Ouais, bien vu.
En ce qui concerne Rose, c'est inspiré de Biarritz.
Exactement, mais parce que ma volonté, c'est toujours de me servir de lieux que je connais ou de personnes que je connais. La mémoire de l'eau, Marion s'est inspirée d'une petite voisine que j'ai vue grandir, qui maintenant a 20 ans. C'est elle qui m'a inspirée. Le gardien de phare, c'était un jardinier que je croisais au supermarché et qui ressemblait un peu à un Père Noël. Le dernier album, par exemple, que j'ai fait, qui va sortir en septembre chez Albin Michel, c'est une adaptation d'un roman d'Emmanuel Schmitt. Ça s'appelle Oscar et la Dame Rose. La Dame Rose, je suis partie de ma maman qui m'a vraiment inspirée sur les décors. Je voulais que ça fasse un peu... années 80, les tapisseries, tout ça, de ce que je me rappelais de mon enfance. Ça a enrichi mon imaginaire. Il y a un truc impalpable quand on fait ça qui ressort parce que il y a une part d'émotion. Ça ne se maîtrise pas. Ça vient naturellement.
Tu viens de parler d'émotion. C'est peut-être ça, la poésie que je ressens. Ce que j'aime bien dans les BD que tu as sorties, c'est qu'elles sont très pédagogiques. Elles expliquent comment s'est fait le projet à chaque fois.
Oui, il y a les recherches avec un carnet graphique pour voir un peu l'évolution, comment ça se construit.
C'est Denis Lapierre qui a fait le scénario de Rose.
Voilà.
Et qui lui-même dit que tu as apporté une touche poétique.
Avant, quand on me disait ça, que c'était poétique, c'est pas que je le prenais mal, mais j'étais, ah ouais, en fait, on trouve ça mièvre. Et en fait, non. Naturellement, je suis comme ça et je peux bosser que comme ça. J'aurais jamais un dessin, comment dire, hyper technique. Ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est le mouvement, c'est la couleur qui vit. Le dessin qui est un peu vivant, quoi.
Il dit que c'est ton trait et tes couleurs sensibles qui apportent ce côté poétique. En témoigne une illustration juste en dessous de ses dires, avec un papillon qui est observé par une fille qui est habillée d'un vêtement qui s'envole. Ouais. Ce sont des mini-feuilles qui s'envolent. En soi, c'est poétique parce que c'est imagé.
On pourrait y trouver une métaphore. Il n'y a pas figé sur la narration, on se raconte ce qu'on veut, quoi. Ça permet de laisser une place à la rêverie.
Donc c'est ça, la poésie, finalement, une image qui donne lieu à plusieurs interprétations possibles, qui n'impose pas une vision d'ensemble, qui parle à l'intelligence des gens, qui laisse les gens utiliser leur propre intelligence.
C'est ça. Quand on lit un texte, chaque personne va l'interpréter à sa façon parce que les mots ne résonnent pas pour tout le monde de la même façon. Et le dessin, c'est aussi pareil, quel qu'il soit, il ne résonne pas de la même façon. Quand je lis certaines BD, ce qui me parle, c'est quand le dessin ne m'impose pas quelque chose. Mais même si on m'impose quelque chose, mon esprit va rêver, va aller au-delà, quoi. Je vais me projeter, je vais m'approprier l'histoire ou le dessin ou le mot. J'aime que mon dessin touche de cette façon-là. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise.
Et c'est très bien, parce qu'il faut pas que ce soit voulu, que ça sorte de l'intérieur et pas de la simple volonté.
Souvent, quand je fais de l'illustration, je vais partir sur une idée, je vais la faire, et puis si je suis assez attentive, je vais me rendre compte que ça va dire autre chose que ce que j'avais prévu.
Quand j'ai lu tes BD, dans les deux que j'ai lus, il y a une enquête policière. Oui. Ça m'a beaucoup fait penser à Rosalie Bloom, que j'ai adoré lire et dont j'ai adoré l'adaptation cinématographique.
Oui, j'aime beaucoup.
Ça m'amène à te poser la question. Il existe peut-être un lien un peu plus étroit entre la BD, qui est le 9e art, et le cinéma, le 7e art. Il y a un lien étroit au-delà des storyboards et de ce lien-là. La BD, en fait, étant donné que c'est visuel, ça peut inviter à en faire une adaptation cinématographique. Ça fait, quand je lis Rose, j'ai pensé à un film de Claude Lelouch, Un homme, une femme, qu'il avait fait, je ne sais plus en quelle année, 66 peut-être, qu'il avait présenté à Cannes, qui avait eu la Palme d'Or d'ailleurs. Ouais. Il n'avait pas assez d'argent pour faire son film, alors il avait fait des flashbacks en couleur et puis il n'avait pas assez d'argent pour payer que de la pellicule en noir et blanc. Donc il y a une partie en noir et blanc et une partie en couleur. Et c'est ces flashbacks qui étaient en couleur. Il avait inversé la chose, ce que les gens du jury avaient trouvé fort original. Des fois, la contrainte financière, ça aide à faire quelque chose d'original. J'ai trouvé que dans ton album, Rose, il y avait quelque chose de similaire, c'est-à-dire que quand il y a un dédoublement de personnes, on voit finalement son double, non pas en transparence, mais en couleur. Et c'est le reste qui est en noir et blanc. Ouais. J'ai bien aimé cette inversion.
Oui, au début, j'ai cherché à faire un truc style fantôme et tout ça, mais pour moi, on parlait pas vraiment de fantôme. Je voulais qu'il y ait un rythme de narration qu'on retrouve à chaque fois. Parce que c'est deux mondes parallèles. Et comme on va pas l'expliquer en texte, il fallait que ce soit visuel. Cette BD, comme on parle de cinéma, ça a duré 2 ans où il y a une réalisatrice anglaise qui voulait l'adapter en série télé.
Ce serait un bel hommage à ton travail. Je donne un exemple, page 108 de ta BD Rose, qui est une BD en 3 volumes en principe, mais qui a été rassemblée dans une seule grande BD. Page 108, on voit le personnage marcher dans la rue et repenser à ce qui s'est passé dans sa journée. Et on voit des images, c'est un personnage dont on voit les pensées, on voit ce qu'elle a dans la tête. C'est très cinématographique, ça. On imagine peut-être une possibilité d'adaptation.
Pourquoi pas?
Le livre parle de fantômes vivants. Qu'est-ce que tu penses des fantômes?
C'est compliqué à expliquer. Mon cœur balance. J'aime y croire. On va le résumer comme ça. Je vais avoir des fois tendance à me laisser porter, à fantasmer la chose. Et puis d'autres fois, mon esprit me dit mais non, non, c'est pas possible. Mais j'aime bien qu'on me raconte des histoires, des lieux habités, où les murs ont gardé une mémoire.
Ça crée peut-être des émotions, de la nostalgie, de la peur.
Oui, c'est ça.
Du frisson.
Puis ça appelle à tellement de... Les fantômes, chacun en a une idée.
On a tous des fantômes dans notre famille.
Puis même les lieux.
Il y a des échos du passé.
Ça peut être vraiment lié à l'histoire d'un lieu, à l'histoire d'un pays, à tout un tas de choses, à l'histoire de quelqu'un.
Mathieu Amalric parlait des vibrations, des objets. C'est peut-être aussi ça, la poésie, être sensible inconsciemment des vibrations qui nous entourent et le retranscrire sans savoir l'exprimer.
Rien n'est figé, rien n'est acquis, tout est possible.
Mais tu parles de fantômes vivants. C'est intéressant ça comme notion.
Oui. Oui, mais c'est pas forcément mort, un fantôme, puisque si on approfondit le truc, si on dit qu'il y a un fantôme, ça veut dire qu'il est là, donc ça veut dire que c'est quelque chose de vivant.
D'accord, mais quand tu parles de dédoublement de la personne, quand on sort de son corps, on est un fantôme encore vivant, on n'est pas encore mort, et pourtant on est capable de sortir. En anglais, on dit « the out-of-body experience ». OBE, ouais. Tu y crois à l'OBE, à l'Out of Body Experience?
C'était plus des choses que j'ai entendues, puis je suis attirée par ce genre d'histoire, en fait.
Bien sûr, on est dans l'ésotérisme.
Oui, ça me plaît. Ça crée un peu de mystère. J'aime bien laisser croire qu'on n'a pas un début, une fin, et qu'après, il n'y a plus rien. J'aime me laisser porter par cette idée. Vaste sujet.
Est-ce que tu acceptes qu'on puisse te dire que c'est poétique, ton coup de crayon?
Oui, je l'accepte, évidemment. Je suis même pas sûre que ça s'explique, parce que il y a les textes narratifs et il y a la poésie. Et la poésie, c'est pas quelque chose de narratif, c'est quelque chose qui fait appel, pour moi, à l'imaginaire, à la sensibilité de chacun. Accepter de se laisser porter.
Merci beaucoup, Valérie Vernet.
Merci, à bientôt.
C'était ma rencontre avec Valérie Vernet lors du deuxième BD Fest de La Roche-sur-Yon, sur la nouvelle place Chirac. C'était le 19 mai dernier. Elle a eu la gentillesse de me consacrer une demi-heure d'interview en terrasse d'un café, baignée sous les doux rayons d'un soleil ce dimanche matin. C'était formidable. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thierry?
Ah, j'adore sa vision de l'existence ou pas des fantômes. Sur sa génial, ça me rappelle Maupassant avec le Horla, où finalement le lecteur est toujours dans l'indécision, c'est lui qui va se faire le...
On est dans l'entre-deux, on sait jamais, on n'a pas la réponse.
Non, on l'a pas, et en fait...
Et c'est très bien de ne pas l'avoir.
C'est très bien de pas l'avoir.
On en reparle juste après cette courte pause musicale. Je vous propose d'écouter une petite chanson tranquille sur les fantômes, Ghost, du groupe canadien Big Wreck.
We'll be right back.
Ghost de Big Wreck.
Ah, ça envoie bien.
Hein. C'était puissant. Hein. Et on reste dans le thème des fantômes.
Oui, ouais, complètement. J'adore le riff de basse, là, il est
ouais,
voilà,
très bon.
Il traduit très bien cet esprit.
Et puis la voix qu'il a, ça me fait penser à David Gilmour des Pink
ouais,
Floyd.
Oui, hein, tout à fait.
Il y a un petit côté floydien.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, concernant l'interview de Valérie Vernet, tu l'auras peut-être ressenti, le fil conducteur, c'était l'entre-deux. La transparence, le brouillard, le filigrane. Atténuer l'ancrage avec le système de calque, marier le trait avec la couleur. Techniquement, elle n'utilise pas seulement un logiciel de graphisme, elle dessine d'abord à la main et c'est l'alliage des deux mondes qui fait son originalité. Alors le grain de ses dessins, leur texture aux traits charbonneux, ça nous montre son désir de les rendre vivants. Et c'est le simple fait de tracer les traits à la main plutôt qu'à la règle qui rend les cases plus vivantes. On est bien dans l'artisanat là, c'est du fait main. La poésie, c'est pour elle une image dans l'entre-deux, ça me plaît bien ça. Ça se fait pas forcément avec la narration, c'est plutôt l'interprétation qu'on peut en faire. En ce sens, la poésie, ça parle à l'intelligence des gens, à l'intelligence sensible, parce qu'elle incite à se représenter les images par soi-même. Dans la BD Rose, que j'ai adorée, qui était ma préférée parmi les trois que j'ai lues d'elle, il y a un dédoublement de personnes. Alors en anglais c'est l'OBE, mais en français j'ai cherché, hein, ça s'appelle l'expérience hors corps. On est dans l'entre-deux. Alors, je connaissais le monde du paranormal et en particulier celui des fantômes, mais je n'avais jamais encore entendu l'expression de fantôme vivant. En effet, le fantôme sort d'un corps encore vivant pour y retourner ensuite.
Alors cette image est beaucoup utilisée dans les dessins animés des années 60-70 avec Tex Avery et compagnie.
Bien sûr.
Où tu vois le personnage qui sort de son corps avant de le réinvestir.
Alors pour revenir au fantôme, il est par métaphore souvent associé au monde du passé. Et quand elle dit « c'est pas forcément mort un fantôme », moi j'entends autre chose que ce qu'elle dit. J'entends que le fantôme, ça maintient le passé en vie en quelque sorte. Et ça me plaît bien. Voici le titre Tribal et les incantations de Bertrand Belin en concert à Saint-Quentin, accompagné des percussions clavier de Lyon, Hyper Nuit de Bertrand Belin dans Ma Bohème.
Il entoure la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandi, c'est lui-même. Il entoure la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui la même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler. Puis tomber, là il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Passer le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs.
Thank you.
sale caractère. J'aimerais éteindre le feu qui noircit la terre. J'aimerais décorer tes mauvaises manières sans déménager ton savoir-faire. Je glisse dans un verre le rose pourpre du cœur. Un coup de blanc, c'est pas plus mal pour repeindre les histoires sales. J'insulte tous les murs à les faire rougir de honte. Les limites me torturent, les murs s'en rendent compte. Je retape ma raison à coups de folie douce. C'est la meilleure façon, ça coule de source. J'enduis mes erreurs. Un coup de blanc, c'est pas plus mal pour repeindre les histoires sales. Un coup de vent, c'est idéal. Il faut enduire la soif du mal. La soif du mal. J'ai plus un clou et je dévisse à base d'insultes décapantes. Je n'ai pas dissous tous mes vices qui me collent, qui me hantent. J'ai beau te faire belle à l'eau de Javel, mais le sang est indélébile et réapparaît sur les murs de la ville.
Mathieu Chédid, La Rose Pourpre du Cœur, dans son tout premier album sorti en 1997, c'est sa grand-mère, la célèbre poétesse André Chédid, qu'on entend d'ailleurs dans l'un des jingles de l'émission, qui l'avait encouragé à se lancer dans la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thierry ?
J'adore. M, en général, j'adore. Je trouve que c'est un génie de la guitare. Moi, je suis guitare, j'adore la guitare.
Ouais, il est sûr.
Mais au-delà...
Bon, c'est un homme de scène aussi.
C'est
hein.
Un homme de scène, c'est un homme de show.
Mais moi, ce que j'aime bien là, dans cette chanson, c'est sa manière de déclamer son texte, en fait. C'est très articulé, c'est plein de malice, et en même temps, c'est expérimental. Il y a plein de sons. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu as des grincements de bateaux au départ, ensuite tu as des sifflements du vent. On est bien dans l'atmosphère fantomatique de l'émission de ce soir. Hein. Il joue sur les mots aussi, on est peut-être dans l'entre-deux. Par exemple, à un moment donné, il dit « un coup de blanc, c'est pas plus mal pour repeindre les histoires sales ». Et ce coup de blanc, bah, c'est quoi ? C'est de la peinture blanche ou bien c'est du vin blanc ? Tu vois, il joue sur les mots, sans doute les deux à la fois. Le titre lui-même, c'est un jeu de mots en référence à La Rose Pourpre du Caire. Sa chanson, c'est La Rose Pourpre du Cœur. La Rose Pourpre du Caire, c'est un film de Woody Allen qui est sorti en 85 et dans lequel le personnage sort de l'écran, passe du film en noir et blanc au monde en couleur. Ça rappelle ce qu'on s'est dit un petit peu avec l'entretien de Valérie Vernet juste avant.
23h.
23h.
Minuit.
Minuit. Ma bohème.
L'objet poétique du mois.
Rimbaud, s'il était là, il chanterait du hard rock. Je crois que ce serait un poète de hard rock. Oui.
L'objet poétique du mois, c'est un film en streaming. C'est La Rose Pourpre du Caire, un film de Woody Allen. Donc, chez lui, chez Woody Allen, la BO est très jazzy. Rien que l'ambiance sonore nous renvoie dans un monde onirique qui nous dépeint une société américaine assez lissée, je dois le dire, assez stéréotypée, lors de la Grande Dépression, dans les années 30. Ce qui m'intéresse avant tout ici, c'est l'idée scénaristique de son film. C'est du fantastique. Parce qu'en fait, il fait surgir un personnage d'un film à l'intérieur du film. Le personnage, il s'appelle Tom Baxter. Et c'est un explorateur, poète lui-même d'ailleurs, il y a toujours de la poésie bien sûr. Et alors lui, il est assez naïf, il décide de déserter son film pour lutter contre l'ennui, parce qu'il en a marre de faire ce film, il est toujours dans les mêmes scènes et tout. Donc il a aussi remarqué une spectatrice dans la salle qui revient le voir sans arrêt, elle est allée à plusieurs séances, et donc il nous montre que les acteurs à l'intérieur des films arrivent à nous voir. Donc ça nous fait rêver, évidemment, quand on a une âme d'enfant, on se dit « Ah, mais est-ce que c'est possible ?» Dans le film, il y a de nombreux va-et-vient entre le monde imaginaire et la réalité cartésienne. À un moment même, il y a quelqu'un qui dit « Mais enfin, c'est pas possible qu'un personnage sorte de l'écran comme ça. » Et il y a quelqu'un qui lui répond « Mais tu sais, dans le New Jersey, tout est possible. » Alors, au-delà de l'humour de Woody Allen, dont on peut se délecter, évidemment, on voit qu'il joue sur les deux tableaux, imaginaire et réalité. Petit à petit, finalement, on ne sait plus ce qui est possible ou non, en fait. On se laisse prendre au jeu, on se laisse totalement avoir. Et c'est peut-être ça, la poésie. C'est se laisser happer par l'histoire sans se poser de questions. Le film est à moitié en noir et blanc, à moitié en couleur. Lorsque les personnages montent dans le film et se retrouvent à l'intérieur du film qui est dans le film, on perd la couleur. Et lorsqu'ils en sortent, eh bien, on revient dans le monde en couleur. Et ce contraste nous fait passer d'un monde à un autre comme s'il existait deux mondes parallèles qui pourraient communiquer entre eux à un moment donné. Alors attention, c'est là que ça va devenir profond. Et si en fait, le film était une métaphore, consciente ou non, de Woody Allen, de ce qui nous relie à nos proches disparus ? S'il était possible que le monde du film en noir et blanc, ce soit simplement la représentation métaphorique de l'au-delà, et que parfois, bah, on ait des passages d'un monde à un autre ? Eh bien, je laisse la question en suspens. Et autre ambiance que celle des fantômes, voici les sorcières qui arrivent. Je vais vous inviter à écouter cette chanson de Björk qui s'appelle Blessing Me. Ça me fait penser à des ambiances de sorcières comme ça. Quand j'entends sa voix, c'est très envoûtant. Je vous laisse écouter Blessing Me de Björk.
All of my mouth was kissing now into the air. I am missing. This excess texting a blessing to music nerds obsessing. He reminds me of the love in me. I'm
your name tattoo, highlight the helium blue, midnight tonight. child, and mountains make me nauseous. I like to look up wild at an infinite sky, a twinkling with diamonds. It's true, I get depressed in fancy hotel rooms, undressed with nothing to flaunt but my loneliness, thinking of the night song of your hair. Premature is evening, far too harsh to me, interrupted by the sirens in the street.
Coco Rosie avec leur superbe chanson qui s'appelle Smoky Taboo, et ça me fait penser vraiment à des ambiances de sorcières.
Ouais, ouais, complètement. Là, ça me fait penser aux Trois Sorcières d'Eastwick.
Ah, et ben là, moi, tout pareil que toi. Alors, moi, c'était les Trois Sorcières de Macbeth.
Ah oui, oui,
qui,
oui, tout à fait.
Qui préparent leurs potions et qui s'apprêtent à faire des révélations à Macbeth et à lui dire tu deviendras roi et tout. Ouais, je pense vraiment à Shakespeare.
Ma bohème.
L'homme est un peu fait de réalité plus charnelle et en même temps de poésie, parce que la poésie fait partie de la réalité.
Il est temps de se dire au revoir, c'est déjà la fin de l'émission. Ma bohème touche à sa fin pour ce soir, même si on ne saura pas au terme de cette émission ce que deviennent les fantômes, l'important c'est de ne pas les oublier. Le podcast de l'émission est disponible sur le site urban-radio.com. Moi je vous dis à plus, je te dis salut Thierry.
Salut et n'oubliez pas, la moitié rieuse et le goéland.
Et puis surtout, portez-vous bien, soyez même votre meilleur support.